Cet après-midi, je vais approfondir un petit bout la première intention dont j'ai parlé hier soir, c'est cette intention de renoncement. Quand on vient s'asseoir pour la méditation, on fait généralement une chose d'abord, c'est qu'on arrête de faire autre chose. Ça veut dire qu'on arrête d'exiger quoi que ce soit de la vie, on arrête d'exiger quoi que ce soit de notre corps ou bien de notre cœur, et puis on vient avec cette attitude de réceptivité. On se met à l'écoute et on se laisse recevoir l'expérience. C'est juste ça. On ne cherche pas à expliquer quoi que ce soit, on fait silence et puis on se met à l'écoute. J'ai lu dans un bouquin que certains maîtres chinois disent qu'il y a une raison au fait qu'on ait deux oreilles et une bouche. Si on a deux oreilles, c'est qu'en fait on devrait écouter deux fois plus et parler un peu moins. Maintenant, ce qu'on peut remarquer quand on vient dans le silence, c'est qu'il y a cette tendance quand même de l'esprit à vouloir décrire, à vouloir comprendre, expliquer, organiser, anticiper, prévoir. C'est pas tout à fait silencieux, hein, quand on se met dans le silence. Donc l'intention dans l'exercice, ça va être de laisser tomber tout ça pour... Le Bouddha, il parle d'entrer dans le courant de la vie et rester vivant en fait. Écouter le corps, écouter les sensations, écouter les ressentis et puis arrêter de coloniser l'esprit avec tout un tas d'histoires et tout un tas de projets. Donc c'est une pratique qui demande pas mal d'humilité, pas mal d'authenticité aussi. On va simplement écouter la nature humaine parler et puis on va renoncer à intervenir. Et quand je parle du silence, je parle plutôt du comment on écoute, de l'attitude. Parce que l'expérience du silence, l'expérience du calme, c'est quelque chose qui est très conditionné. Mais au niveau de l'attitude, il peut y avoir un silence et un calme toujours disponibles. C'est John Lane qui dit dans le silence, rien n'est décrit, mais tout est ressenti, donné à voir. C'est ce qu'on apprend à faire dans la méditation, c'est voir plutôt que croire. Et dans l'exercice, il y a une curiosité qui est très simple et très puissante pour ce qui est là en train de se passer pendant que ça se passe. On met de côté toutes les images qu'on pourrait avoir sur ce que c'est la méditation, ce que c'est, je sais pas, la paix, le bonheur, le bien-être. On laisse de côté les images qu'on a de nous-mêmes aussi. Et puis on va se laisser connaître les choses comme elles apparaissent et comme elles disparaissent. Donc l'idée, ce serait de ne préjuger de rien. De simplement cultiver cette force de présence et d'écoute de ce qui est. Et la compréhension, l'équilibre dans notre manière de vivre nos émotions, ça va venir d'abord du corps, ça va venir d'abord des pieds, des mains, de cette présence au ressenti, pas de l'esprit qui cherche à comprendre, à analyser. Élabore. C'est Joseph Goldstein qui nous dit, c'est la conscience de ce qui se produit dans le moment présent qui purifie, de telle sorte qu'il n'y a rien à être ou à devenir, rien de spécial à faire ou à avoir, tout simplement prendre du recul en restant attentif. Et puis dans l'exercice, il y a comme deux mouvements. En même temps, on va s'approcher des choses, on cherche à devenir intime avec l'expérience dans l'instant. On va se lier au sens pour faire l'expérience du réel, immédiat. Et puis pendant qu'on fait ça, en même temps, il y a comme un pas de côté. Il y a cette intention de prendre du recul. C'est Henri Gougaud qui parle de la vision d'aigle. C'est comme si on décolle de moi pour mieux finalement coller à l'expérience. Et c'est tout un art en fait d'être engagé dans cette écoute sans être forcément pris en fait par les affaires qui sont là en train d'arriver, sans être pris par les émotions. D'être en même temps engagé, mais dégagé. Donc l'action principale dans l'exercice du Vipassana, c'est une action de renoncement. Ça veut dire qu'on laisse de côté tous les thèmes de prédilection qui occupent habituellement notre esprit pour aller à la rencontre de ce qui est là. Et ce qu'on peut voir, c'est que la plupart du temps, on est quand même dans un rapport plutôt émotionnel et puis conceptuel avec les choses. On se voit, on voit l'autre, on voit le monde à travers tout un tas de souvenirs, des perceptions compliquées, à travers nos désirs aussi, nos projections, à travers nos peurs. Et puis on s'identifie généralement au contenu de l'esprit, on s'identifie à nos pensées, on s'identifie à nos émotions. Et puis on croit que c'est ce qu'on est. On est un ronchonchon, ou on est un angoissé, ou on est un artiste. Et on ne voit pas en fait tous les films que l'esprit est constamment en train de projeter. On prend le drame, hein, toutes ces histoires qu'on construit pour la réalité. Le mot Bouddha, en fait, ça veut dire éveillé. Et puis si on devait résumer les enseignements du Bouddha, peut-être qu'on pourrait dire que son enseignement principal, c'est réveillez-vous. L'idée, c'est vraiment de sortir du rêve, de la pensée, pour aller au contact du ressenti. Quitter la tête pour habiter complètement le moment présent. Ce qui est perceptible, palpable. Ressentir agréable, désagréable, neutre et le ressentir avec beaucoup de bienveillance. Pour parler de toutes ces images ou toutes ces idées qu'on a constamment au sujet des choses, William Blake, il utilise l'image des menottes que je trouve assez intéressante. Les idées, les pensées, en tout cas certaines pensées, elles seraient comme des menottes qui sont forgées par notre esprit. Ça veut dire qu'elles nous imposent quelque part des œillères. Hein. Une idée, c'est un aperçu de la réalité à un moment donné. C'est quelque chose de très conditionné et limité. C'est pas la réalité. C'est comme si on regardait à travers le trou de la serrure. On a l'impression qu'on voit tout, mais on voit qu'un petit bout. Généralement, quand on est habité par ces pensées un peu obsessionnelles ou compulsives, ben, elles suscitent une espèce de fièvre ou alors beaucoup de désarroi. Généralement, c'est nos pensées qui nous mènent en enfer ou en paradis. Les pensées, les idées, les a priori, tout ça, ça nous fait des grandes promesses. Il y a cette promesse peut-être d'abord de l'expérience parfaite, de la vie parfaite, cette promesse qu'il existe un endroit où on peut se cacher de la souffrance, être protégé du malheur. Il y a cette promesse aussi de sécurité, de stabilité. Et puis, généralement, pris par les pensées, on est quand même esclave des... Enfin, du désir, du plaisir, de la réussite. Et ça m'a pris pas mal de pratique de vraiment réaliser que le chocolat, ça va pas régler tous mes problèmes. Il y avait cette promesse d'un bien-être après avoir goûté à la mousse au chocolat de Geneviève. J'imaginais que tous mes problèmes allaient être résolus, allaient se dissoudre. Et puis c'est vrai que la première bouchée, généralement, elle est délicieuse. Il y a vraiment une détente, je peux savourer, m'oublier un moment dans le plaisir. Mais après ça, généralement, il faut très peu de temps pour que l'angoisse existentielle et puis tout son cortège d'émotions perturbatrices reviennent à la charge. Et puis il va me falloir une deuxième cuillère ou un deuxième morceau, un troisième. Finalement, je vais manger la plaque entière. Je vais commencer à me sentir mal physiquement parce que j'ai mangé trop de chocolat. La culpabilité, la honte, voilà, toutes ces pensées de jugement vont également apparaître. Et ce qui était au départ en fait une tentative pour éviter de me sentir mal, ben finalement ça crée encore plus de difficultés. Et tout ça parce que on suit cette pensée qui nous dit qu'une fois pour toutes, ça va aller bien. Ça va aller comme j'aime, comme je veux, que je peux tenir le bonheur une fois pour toutes. Mais la fin de l'angoisse existentielle, c'est pas sa suppression, c'est la fin du pouvoir que je lui donne, en croyant qu'elle est vraie, que c'est à moi, que je suis la propriétaire de l'angoisse. Et puis en croyant à toutes ces représentations que j'ai au sujet du bonheur et de la souffrance, au sujet de la paix. Il y a vraiment une grande différence entre avoir la paix ou vouloir la paix et puis résister à tout ce qui est négatif et puis accepter tout le négatif et rester être dans la paix. Avoir ou être, c'est vraiment différent. Pour parler du renoncement, le Bouddha, lui, il utilise l'image d'une prison. Ça va un petit peu dans le même sens. Quand il y a quelque chose qui se manifeste dans l'instant, généralement, l'habitude, ça va être de l'attraper et puis de l'utiliser pour fabriquer toutes sortes de pensées. Quand on fait ça, qu'on accroche, généralement, tout devient beaucoup plus personnel et beaucoup plus compliqué que ça l'est en réalité. Quand on se réfugie dans la pensée avec cet espoir d'échapper à ces émotions qui nous font peur, ben on fait que leur donner un peu plus de pouvoir. Seulement, c'est pas si facile hein, d'aller contacter l'angoisse, le sentiment d'impuissance, l'insécurité, la culpabilité, l'arrogance, la jalousie. C'est pas spécialement attrayant, on va dire, de s'exposer à toutes ces émotions-là. Et on se retrouve alors piégé dans les pensées négatives et puis piégé par nos humeurs. Chaque fois qu'on est plongé dans la pensée compulsive et qu'on est pris par l'émotion, on ne voit pas la situation, on ne voit pas l'autre, on ne voit pas le monde, on voit seulement l'idée qu'on a de ce qui est en train de se passer. Quand on est possédé par la pensée et qu'on y croit, ben on n'est pas libre et on n'est pas heureux. On crée de la souffrance de cette façon-là, en se liant mentalement à l'expérience. Je vous lis Eckhart Tolle. S'éveiller sur le plan spirituel, c'est s'éveiller du rêve de la pensée. Le domaine de la conscience est trop vaste pour être saisi par la pensée. Lorsque vous ne croyez plus tout ce que vous pensez, vous sortez de la pensée pour voir clairement que le penseur n'est pas votre être essentiel. Notre essence, c'est la conscience. C'est un refuge et c'est ce qu'on cherche à cultiver dans le silence de la méditation. En renonçant à cette stimulation constante qui caractérise généralement notre vie quotidienne, en nous liant plutôt à l'espace et au silence, quelque part on trouve le matériel nécessaire à construire une vie plus heureuse, à construire de la santé mentale. La paix dont parle le Bouddha, c'est vraiment le courage d'être ici et maintenant, nulle part ailleurs, avec les choses comme elles sont. Imparfaite, changeante et pas si personnelle que ça. Et là, je vous lis Franz Kafka. Inutile de quitter votre chambre, restez assis à votre bureau et écoutez. Ou plutôt n'écoutez pas, contentez-vous d'attendre. Ou même n'attendez pas, restez seul et immobile. Alors le monde s'offrira librement à vous, prêt à être démasqué. Démasquer le monde, je comprends ça comme rétablir les faits. Assis dans cette salle, on est traversé par tout un tas de sensations, par tout un tas d'impressions. Et en restant immobile face à toutes ces énergies changeantes, on découvre en fait notre Bouddha intérieur, notre sagesse, et puis on va se dégager du pétrin dans lequel la pensée parfois nous projette. Donc la méditation, c'est beaucoup une sensibilité à développer, c'est devenir sensible à ce qui est vulnérable, à ce qui est là en train de se passer, à ce qu'on est en train de ressentir. C'est sortir du mental et puis nous attacher à nos sens, écouter vraiment au lieu de toujours entendre le bruit des pensées. C'est voir vraiment, c'est toucher vraiment. Du moment qu'on rajoute quelque chose à l'expérience, quelque part on la déforme. On déforme ce qui est et ça devient personnel, compliqué et très émotionnel. Donc la première chose à laquelle on renonce dans l'exercice, c'est à commenter absolument tout ce qui se passe. Le refuge dans la pensée, il nous donne une fausse impression de contrôle et de sécurité, un sentiment de sécurité. Mais c'est seulement quand on peut approcher avec sensibilité et authenticité ce qui est là, ce qu'on est en train de ressentir, toutes ces impressions qui nous traversent, qu'on peut gagner en liberté intérieure. Juste maintenant, c'est long, ou alors c'est douloureux, ou l'esprit est agité, ou alors c'est l'éclat, c'est calme, c'est détendu. Il suffit juste d'être présent, rester présent, laisser le jeu se faire, hein, s'élever, retomber, recommencer à nouveau. À l'infini. Et puis il y a une autre chose qu'on lâche aussi, c'est cet attachement au plaisir. Quand on est sous l'emprise du désir ou de l'aversion, on va être très préoccupé en fait par le confort, par le fait que ce soit stimulant, que ce soit plaisant, que ce soit surtout pas trop inconfortable. Avec le désir, il y a une forme d'obsession pour ce que j'aime. Et du coup, il y a la peur pour ce que j'aime pas. Il y a la peur aussi de perdre ce que j'aime qui m'est agréable. Alors du coup, quand ça devient désagréable, ben, il y a le désir d'échapper à cette sensation, à cet inconfort qui va se manifester en même temps qu'une résistance. L'incapacité finalement de faire avec ce qui est. Et tout ça, ça ajoute une tension. Ça crée un lien relativement tendu à l'expérience et c'est ça qui nous fait créer de la souffrance. Et paradoxalement, c'est quand on arrête, quand on n'est plus attaché au bonheur, en fait, qu'on commence vraiment à être heureux. Quand on n'attend plus rien. Je vous lis Ajahn Sumedho. Quand vous essayez de vous débarrasser de la peur ou de la colère, que se passe-t-il? Vous devenez simplement agité ou découragé et vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller manger, fumer ou boire ou faire quoi que ce soit d'autre. Mais si vous attendez et que vous supportez l'agitation, l'avidité, la haine, le doute, le désespoir ou l'envie de dormir, si vous observez ces conditions, au moment où elles cessent, vous atteindrez une sorte de calme et de clarté mentale auquel vous ne parviendrez jamais si vous êtes toujours en train de courir après quelque chose d'autre. Et c'est ce qu'on peut expérimenter dans l'instant, hein. Le désir, il va jamais libérer notre cœur, il va toujours le conditionner à espérer plus de liberté, plus de confort, plus de bien-être à l'avenir. Et du coup, la liberté ou l'idée qu'on s'en fait, c'est ça qui devient une prison. Le monde d'aujourd'hui, le monde moderne, il nous martèle fort en fait que le bonheur, ça va se trouver dans les objets, dans les situations, dans l'action, les voyages, les sports extrêmes, le shopping, la propriété. La société de consommation, elle nous pousse en fait à nous tourner vers nos désirs. Elle fabrique toutes sortes de besoins fictifs auxquels on est invité à nous satisfaire. Elle nous pousse à nous distraire à l'infini. Mais qu'est-ce qui se passe en fait quand on croit que c'est l'assouvissement de tous nos désirs qui va nous amener plus de paix, plus de bonheur? Où est-ce que la foi en la réussite, la propriété, la bonne expérience, les biens matériels, où est-ce que tout ça nous mène en fait? Si on regarde honnêtement la situation, ça nous mène à la destruction de notre maison. Et puis ça nous prive de notre pouvoir. Le pouvoir de transformer la souffrance en faisant face et puis en la touchant avec la conscience. Le pouvoir en fait d'être heureux ici et maintenant avec les choses comme elles sont. C'est Thich Nhat Hanh qui dit: notre vraie demeure est le maintenant. Vivre dans l'instant présent est un miracle. Le miracle n'est pas de marcher sur l'eau, le miracle est de marcher sur la terre verte en ce moment, d'apprécier la paix et la beauté qui nous entourent maintenant. Et ce qui va nous aider à être pleinement présents à nous-mêmes et puis à ce miracle de l'existence, Ben, c'est quand même beaucoup le silence et la solitude. Dans le silence, on va plonger au cœur de nous-mêmes pour découvrir en fait quelle est notre vraie nature. Ce John Lane que je cite régulièrement, il a écrit un livre qui s'appelle Les pouvoirs du silence. Et puis dans ce livre, il nous dit que le silence, en fait, peut nous apprendre qui nous sommes. C'est un peu comme si le silence était notre état naturel. Bien employé, le silence nourrit notre âme et renouvelle notre imaginaire. Les hommes sont diminués, leur humanité est dégradée lorsqu'ils perdent contact avec leur liberté intérieure, soit parce qu'ils y ont volontairement renoncé, soit parce qu'elle a succombé à un excès de bruit et d'agitation. Et cette liberté intérieure, c'est ça qui est au centre des enseignements du Bouddha. La clé du bonheur, c'est pas l'accomplissement du désir, c'est plutôt la libération de l'emprise du désir et de l'attachement. C'est pas les choses parfaites, c'est vraiment cette liberté du cœur, cette souplesse dans l'esprit. Dans nos vies, ça va arriver souvent en fait que ce soit pas la version qu'on aime qui va se présenter. Et il n'y a rien d'autre à faire que de laisser faire, rester présent, prendre du recul, tout en restant attentif, inclure dans le champ de conscience la peur, la honte, la tristesse, voir si c'est possible de nous détendre avec ces énergies, les laisser aller. Rien à faire, simplement laisser faire. Et puis il y a une dernière obsession à laquelle on renonce dans l'exercice de la méditation, c'est l'obsession pour moi. Ce qui m'arrive à moi. Ce que je suis, ce que je ne suis pas, moi et mes problèmes, moi et ma quête spirituelle. Quand on fusionne comme ça avec l'expérience et puis qu'on envisage tout à partir d'un point de vue personnel, quelque part, ben, on se met en prison, on se prive de cette liberté de transformation intérieure. On crée tout un monde illusoire de personnalité, d'identité à partir desquelles on fabrique, voilà, quelque chose de solide, ce concept je. C'est juste des perceptions qui apparaissent, qui disparaissent dans notre esprit et qui n'ont pas vraiment de substance réelle. Le Bouddha dit quelque chose comme ne t'inquiète pas, tout ce qui s'élève dans l'esprit n'a pas d'importance parce qu'il n'a aucune réalité. Seulement, on n'a pas conscience de ça tout de suite. Et puis, on a plutôt tendance à attraper les choses et puis à créer des étiquettes ou des visions comme ça de qui on est, qui est l'autre, de ce dont on a besoin, de ce qui est bon pour nous, pour les autres. Donc, l'idée, ce serait de mourir à cette notion de soi. Pour renaître à la vie, à la conscience universelle. C'est un petit peu le message, si j'ai bien compris, de la crucifixion, de Pâques, si on veut être dans le thème de ta chrétienté. Et ça peut faire du bien de sortir de cette vision très étroite de qui on est, de qui sont les autres, de mettre en lumière en fait quelles sont nos croyances, quel est le concept de nous-mêmes qu'on a créé, qu'on entretient parfois de manière assez laborieuse. C'est vrai que porter en permanence cette image d'un soi qui est fabriqué, ça peut être relativement lourd, ça peut amener pas mal de tension. Et c'est pas aidant en fait de préjuger de ce qu'on est ou de préjuger de ce qu'est l'autre. Donc intéressant peut-être voilà, de voir que les perceptions, ben, c'est des perceptions conditionnées, subjectives, limitées, changeantes. Intéressant aussi de nous ouvrir à toutes ces croyances qui sont là, de mettre en lumière les tendances, les habitudes émotionnelles, d'apprendre à mieux nous connaître en fait. Et quand on est capable comme ça de conscientiser le sens du moi quand il émerge, de mettre en lumière toutes ces pensées qu'on a créées autour de qui on est, ben quelque part on n'est pas dans le conceptuel, on sort déjà un petit bout des idées préconçues et on relâche déjà un bout aussi cet attachement à moi, mes opinions. Donc l'invitation du Bouddha, c'est en fait de remplacer cette obsession, cette fascination pour moi par la sagesse et par le discernement. C'est pas à propos de moi, c'est pas à moi, je suis pas l'expérience, c'est juste que ça arrive. Et l'invitation du Bouddha, c'est simplement de reconnaître qu'il y a quelque chose là qui est présent et puis en fait prendre soin. Laissez-moi en dehors de la situation et nous autoriser à vivre, je sais pas, le mouvement d'impatience ou le mouvement de découragement. Apprécier le calme sans nous y attacher. Voilà, reposer plutôt dans la conscience que sur l'expérience. Et puis bien sûr que quand on s'approche, qu'on veut bien s'exposer, qu'on prête attention, ben on va pas voir que du beau. Il y aura aussi des zones d'ombre, des zones de conflit. Il y a la blessure d'amour qui va être révélée. Un cortège d'émotions perturbatrices qui sont pas évidentes à côtoyer, mais c'est vraiment une porte qui s'ouvre vers la compassion et vers le courage. Après, on n'est pas très entraîné en fait. Quand c'est inconfortable, on a plutôt envie, on aura plutôt tendance à s'effondrer ou alors à chercher que ce soit autrement. On n'est pas tellement habitué à aller à la rencontre. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer une liberté intérieure qui ne dépend pas d'avoir ce qu'on aime et ce qu'on veut. Une capacité finalement d'être avec l'inconfort et puis de vivre nos émotions sans tout de suite paniquer. J'aime bien, c'est Ajahn Suchito, je crois, qui utilise cette expression « vivre la panique avec ouverture ». C'est pas qu'il n'y a pas besoin de paniquer, c'est juste qu'on peut ne pas rajouter de la panique à la panique. C'est beaucoup plus simple, enfin la vie devient beaucoup plus simple si on accepte en fait d'ouvrir notre porte au chaos. Tant qu'on cherche à contrôler tout le bazar à l'intérieur ou à l'extérieur, généralement voilà, on rajoute des difficultés. Mais du moment qu'on accepte l'idée que les choses sont très instables, très imparfaites, du moment justement qu'on s'ouvre, hein, au chaos de l'existence, à notre chaos personnel, du coup, il y a quelque chose qui est beaucoup plus en confiance et beaucoup plus détendu. Et puis bien sûr que la méditation, c'est pas seulement rencontrer l'ombre, c'est aussi tous les moments de joie, de être présent, mettre du soin dans tout ce qu'on fait, c'est source de beaucoup de contentement et de joie. Donc c'est aussi important de pouvoir apprécier quand il y a une absence de problème. Et puis je vais terminer avec une citation d'Ajahn Sumedho que j'ai trouvée dans le livre La conscience intuitive. Il ne s'agit pas de nier, d'effacer ou de condamner la réalité, pas plus que de croire aveuglément ce que disent les pensées. Il s'agit d'avoir confiance dans notre capacité à être attentif, présent et conscient, au lieu de tout le temps essayer d'arranger les choses dans la roue tournante des pensées et des habitudes qui nous donnent le vertige et créent tant de confusion. La méditation nous donne une perspective sur les situations, sur la roue des pensées, sur la confusion, sur le chaos. Nous sommes face à tout cela et nous sommes conscients de la réelle nature des choses au lieu de nous identifier. Nous voyons alors que c'est là notre véritable nature, c'est cette connaissance, cet état pur, cette conscience pure, cette compréhension pure. Nous apprenons à nous souvenir de cela, à être pleinement cela, notre véritable demeure. C'est cela que nous sommes, pas ce que notre esprit conditionné nous fait croire que nous sommes. Donc c'est un petit peu ce chemin du milieu, pas être complètement dupe, absolument croire tout ce que la pensée nous dit, mais pas non plus rejeter ou tenir à distance, simplement devenir conscient. Et puis laisser l'esprit, voilà, reposer dans la conscience, donner un peu moins d'importance à l'expérience et un peu plus à l'espace et au silence. Et puis bien sûr, ça va prendre beaucoup, beaucoup de patience et beaucoup, beaucoup d'amour de nous accompagner mieux quand c'est un peu défiant ou difficile. De laisser être la réactivité, l'accueillir. Renoncer à rajouter une couche. Faire confiance ou laisser être. Il y a cette intention de donner des nouvelles habitudes à l'esprit, et puis après, ben, chacun fait ce qu'il peut au mieux. Et ce qui va toujours nous aider, c'est de prendre refuge dans la conscience. Il y a du découragement, il y a de l'anxiété, il y a de la colère et je sais que je suis là. Il y aurait maintenant la possibilité d'un entretien de groupe. J'ai prévu 5 moments, 6 personnes par moment, ça devrait faire le compte. Du coup, pour aujourd'hui, je propose que les personnes pour qui c'est la première retraite, vous restiez ici dans la salle et puis qu'on prenne un temps pour s'il y a des questions ou une expérience à partager ou une incompréhension, une difficulté. Ces moments d'entretien groupe, c'est vraiment l'occasion en fait de mettre un peu plus de clarté, faire le clair, partager nos expériences, réaliser aussi le caractère universel de la souffrance. On n'est pas tout seul à avoir mal. Et puis, c'est l'occasion aussi d'écouter avec soin quand on parle de faire confiance à l'émergence, à questionner qu'est-ce qui a besoin d'être partagé, d'être approfondi ensemble. C'est un moment où on peut aussi partager de nos sagesses. Donc, ceux pour qui c'est la première fois, volontiers, vous restez dans la salle et puis les autres, c'est le moment de la marche.